et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ce soir, nous recevons Boris Vallaud, député des Landes et responsable du projet présidentiel au Parti Socialiste. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous venez de publier « L'esprit de résistance » aux éditions Flammarion. On va évidemment en parler. Mais peut-être une question d'actualité ce week-end. Vous l'avez peut-être vu, Guillaume Pelletier, qui est le porte-parole des Républicains, a semé l'émoi en déclarant qu'il partageait les mêmes convictions que Robert Ménard, le maire de Béziers, qui est proche de Marine Le Pen, mais il a surtout déclaré que le Front républicain était une imposture intellectuelle. En clair, pas une voix pour Emmanuel Macron. Alors, on a envie de se poser la question sur ce que va faire la gauche. Comment elle votera? Est-ce que, par exemple, au régional, elle pourra se désister en faveur de La République En Marche? Quelle est la doctrine qui est arrêtée parce qu'on entend peu parler de ce que vous ferez?
D'abord, la différence avec beaucoup d'autres, c'est que vous savez ce qu'on a fait. Dans l'histoire, on ne s'est jamais dérobé à nos responsabilités. Oui, mais ça n'est pas rien. Les autres en parlent, mais au fond, ceux qui ont eu à le faire plus souvent qu'à leur tour, c'est nous et sans ciller. Là, en l'occurrence, vous évoquez Guillaume Pelletier. Je veux dire qu'il en tire les conclusions que, au fond, une forme d'honnêteté intellectuelle obligerait. C'est qu'il quitte les Républicains et qu'il rejoigne Marine Le Pen. Les choses, au moins, seraient assez nettes. J'ai entendu aussi les propositions qu'il faisait, mais vous savez, la somme de ces gens qui s'endorment en rêvant d'un régime autoritaire, on va finir par se réveiller en l'ayant. Donc, quelle est la position de la gauche? D'abord, faire une campagne active, de proximité, à l'écoute des Françaises et des Français, faire le meilleur score possible au soir du premier tour. Et au soir du premier tour, on répondra à toutes ces questions-là.
Donc, pour vous, le Front républicain n'est pas mort?
Non, je ne crois pas. Je veux dire, il y a des circonstances dans lesquelles...
Vous êtes sûr?
Écoutez, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le combat contre l'extrême droite, voilà, contre cette espèce d'aspiration autoritaire qui avance peut-être avec le sourire, mais qui avance, eh bien, il faut la combattre avec détermination, dans la fidélité à ce qu'est la France et la République.
Voilà. Vous dites, Boris Vallaud, quel est l'objectif de la gauche? Vous ne parlez pas du Parti Socialiste. Alors, il est vrai que les derniers rendez-vous électoraux ont été assez cruels pour votre parti. Benoît Hamon, 6,35%, 36% en 2017 à la présidentielle. Aux européennes en 2019, Raphaël Glucksmann, qui était soutenu par le PS, fait 6,19. Et dernièrement, ça n'est qu'une estimation, mais Anne Hidalgo a été estimée à 6% pour la présidentielle de 2022. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui le Parti Socialiste vaut 6%?
Alors, il aurait été juste d'évoquer les municipales, qui n'étaient pas un petit rendez-vous démocratique et électoral, et où le Parti Socialiste a été conforté comme la première force d'opposition à gauche, en remportant de très nombreuses villes, une cinquantaine de villes de plus de 30 000 habitants. Ça n'est pas rien. Ça veut dire aussi des élus sur le terrain qui, au quotidien, œuvrent à la vie quotidienne des Françaises et des Français. Non, je ne crois pas que nous soyons à ce niveau-là. D'ailleurs, j'entends beaucoup d'aspirations qui, en réalité, sont des aspirations à plus de justice, à plus d'égalité. Beaucoup de gens sont révoltés par... bien des thèmes, les inégalités environnementales qui explosent par le haut et par le bas, les rémunérations d'un certain nombre de grands patrons qui, au fond, font l'austérité salariale de beaucoup de travailleurs. Eh bien, moi, je crois que le Parti Socialiste, la gauche peut-être plus largement, a une raison d'être parce que le monde continue d'aller mal.
Alors justement, vous me tendez la perche, le vent de l'histoire souffle, on va dire, de votre côté. Jamais autant d'inégalités, jamais autant de pauvres et de riches, de très riches, de très pauvres. Pourquoi la gauche, en quelque sorte, a perdu d'abord l'électorat populaire? Bon, ça, on ne va pas faire une thèse là-dessus. Mais quand même, à quoi c'est dû? On parlait des droites irréconciliables, celle qui veut aller, qui continue de faire barrage, et celle qui veut aller avec Marine Le Pen. Il y a eu deux gauches irréconciliables. Est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui a fait que, eh bien, vous êtes, comme le dit Frédéric, vous êtes tombé à 6% alors que, je le redis, l'histoire souffle pour vous.
Écoutez, vous avez raison de le dire, mais il faut évidemment regarder le passé, ce qu'on a raté comme rendez-vous avec l'histoire, avec les grands tournants de l'époque, la réorganisation du capitalisme, la mondialisation, la question environnementale, mais il faut se projeter. Il faut se projeter. Je trouve que la crise, la pandémie telle que nous venons de la traverser, nous offre un point d'appui considérable parce qu'elle a rendu intelligible un certain nombre de choix radicaux que nous avons à faire.
Elle a révélé la puissance de l'État aussi.
Elle a révélé la nécessité de l'État. Elle a révélé la nécessité de l'État.
Oui, mais Macron s'en est servi.
Oui, mais elle est, vous voyez bien, sur cette question-là très précisément, nous sommes sur le fil. Au fond, quel État voulons-nous ? Dans la crise, en France et d'ailleurs sur le plan international, l'État a montré le meilleur de lui-même et potentiellement le pire, c'est-à-dire l'État qui protège, l'État social, avec sa nécessité, et puis l'État qui met la démocratie sous cloche, qui confine nos libertés. Eh bien là, au fond, nous devons, dans le moment, nous dire nous voulons un État qui corresponde, au fond, à nos aspirations humanistes. Nous sommes sur le fil. Il y a aussi une aspiration autoritaire, l'État comme nostalgie absolutiste. Ce n'est pas celui que l'on veut à gauche.
Dans ce livre que vous venez de publier, Un esprit de résistance, vous défendez l'idée que le Parti socialiste doit renouer avec ses fondamentaux, en quelque sorte, le souci du plus grand nombre, la défense des classes populaires et la promotion de la laïcité. Si votre parti doit renouer avec ses fondamentaux, c'est qu'il s'en est écarté.
C'est que nous n'avons pas assez parlé.
S'il s'en est écarté, aujourd'hui, qu'est-il devenu ? Qu'est-ce que le Parti socialiste aujourd'hui ?
Aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est l'héritier d'une longue histoire qui l'oblige. C'est un parti qui est porteur d'une responsabilité parce que sa raison d'être, au fond, est permanente dès lors qu'il y a des inégalités.
Oui, mais est-ce que c'est comme une grande marque qui n'a plus de produits et qui n'a plus de services de recherche et de développement et qui n'a plus rien à proposer ?
Il y a des grandes marques qui disparaissent et qui ressuscitent. Et la réalité, c'est que
ils sont rachetés,
en général, il faut continuer. Voilà, nous ne sommes pas achetables.
Oui,
c'est la réalité.
Souvent, elles sont rachetées.
Aujourd'hui, il faut parler à tous les Français qui ont des vies dures. Mmh. Voilà. Moi, je suis un jeune élu. Je suis député depuis 4 ans. Au fond, je suis rentré en politique depuis moins longtemps qu'Emmanuel Macron. J'ai dans ma permanence toutes ces Françaises et ces Français qui n'ont que leur force de travail pour vivre quand ils arrivent à vivre de leur travail. Certains n'en ont pas même. C'est à cela qu'il faut parler. On est au cœur de grandes révolutions. La révolution numérique qui n'a donné à voir qu'une part d'elle-même. La crise environnementale qui nous oblige à changer de modèle. Eh bien, il faut dire aux ouvriers d'aujourd'hui que c'est avec eux qu'on va construire l'industrie de demain. Il faut dire
mais ils ne vous écoutent plus, les ouvriers d'aujourd'hui.
Eh bien, mais on leur parle, parce qu'on leur parle à nouveau. Parce qu'on leur dit que...
Mais en leur disant quoi de nouveau ?
Mais en leur disant qu'on va financer la transition environnementale et en étant très précis sur la façon dont on va le faire. En leur disant nous allons penser un modèle social qui apprivoise le hasard parce qu'aujourd'hui, trop de situations sont laissées dans le vide. Quand vous rentrez sur le marché du travail, quand vous changez d'emploi, quand votre emploi est menacé par des mutations technologiques, eh bien, nous formulons des propositions qui sont très précises, avec le compte personnel d'activité, avec le revenu de base, avec le capital de départ, avec des réflexions sur le partage de la valeur ajoutée, le partage de la masse salariale. Comment on reprend prise sur son propre destin.
Alors c'est bien, parce qu'on peut considérer que vous mettez la charrue et vous chercherez les bœufs après, c'est-à-dire celui qui va mener les idées. Mais quand même, en parcourant votre livre, Un esprit de résistance, j'avais une chanson qui venait dans la tête d'Hugo Frey. C'était « Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup ». Et je crois qu'il y a une suite.
Oui, la suite, c'est...
On s'est amusé là-dessus.
Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout, mon gars, un bulldozer et 200 bras. Alors, 200 bras, ça, a priori, c'est pas trop compliqué à réunir, y compris pour le parti. Oui, mais le bulldozer, est-ce que vous l'avez ?
Écoutez, on y travaille. voilà. Mais oui, on a plein de gens de qualité. On ne manque pas de gens de qualité compétents, déterminés au Parti Socialiste. On a aussi trop souffert de n'avoir que des petits bulldozers qui finissaient par se neutraliser. Vous savez, on commémorait, je crois, la mémoire de Napoléon il y a très longtemps. Il disait, je préfère un mauvais général que beaucoup de bons généraux. Bon, eh ben, il faut qu'on travaille cela, mais on n'arrivera pas à avoir le bulldozer dont vous parlez si on n'est pas au clair sur ce que nous proposons.
Pour mettre au clair...
Vous savez, quand on a une incarnation, on dit vous n'avez pas de projet. Quand on a un projet, on dit vous n'avez pas d'incarnation. Eh bien, l'un et l'autre arrivent bien.
C'est pas faux, mais le problème du Parti Socialiste, et vous le savez mieux que moi, ce sont quand même les querelles byzantines. Il y a autant d'avis que de gens. Et
je crois que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui.
Ok, parce qu'en fait, ça veut dire quoi sociaux-démocrates sont partis vers Macron.
Ceux qui sont restés au Parti Socialiste sont socialistes.
Oui, enfin,
avec... Non,
attendez. François Hollande, il était bien socialiste.
Mais je crois qu'il l'est toujours.
Et il y avait les fronts, ce qu'on appelle les frondeurs.
Vous
étiez dans le même camp ?
Ils le sont également. Aujourd'hui, moi, je suis responsable du projet du Parti Socialiste. Et je fais travailler tous ces gens-là ensemble. En prenant, je le redis, appui sur cette crise et sur les leçons qu'elle nous donne. Il y a évidemment l'aspiration à un retour à la normale. Mais il y a aussi l'aspiration à un changement de modèle. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Vraiment, elle nous a donné des leçons, cette crise. On peut passer à côté. Eh bien, ce n'est pas ce que nous proposons. Et je peux vous dire
donc
que...
Donc, de vous, les gars, sujets... réveillez-vous.
Oui, absolument. Et c'est ce que l'on fait depuis 4 ans.
Vos frères avaient raison. Mais à quoi travaillez-vous aujourd'hui ? À un projet pour un candidat du Parti Socialiste ou à des idées pour alimenter une candidature de gauche ?
Bien, pour ce qui me concerne, je travaille à l'affirmation de ce qu'est le Parti Socialiste, de ce qu'est le socialisme aujourd'hui face aux enjeux qui nous font face. Et je pense que, évidemment, pour porter un projet socialiste, il n'y a pas tel qu'un socialiste. Eh bien, c'est ce à quoi nous travaillons. Il n'y aura pas d'union à gauche. Il n'y aura pas d'affirmation...
Ça, c'est enterré, cette idée de la candidature unique à gauche ?
Non, je ne crois pas qu'elle soit enterrée. Mais je pense qu'il n'y aura pas...
Par Jean-Luc Mélenchon, plus ou moins.
Jean-Luc Mélenchon, il a choisi...
Si lui, il l'enterre, ça compromet gravement l'idée.
Il a choisi, pour l'instant, en tout cas, un chemin qui est le sien et qui n'est pas, en effet, celui d'une candidature unique. Moi, je dis qu'il n'y aura pas, de toute façon, d'union à gauche sans une affirmation de ce que nous sommes les uns et les autres. Et que nous n'irons pas au rendez-vous des gauches sans des idées solides et l'affirmation d'un certain nombre de principes.
Qu'est-ce qui vous différencie de Jean-Luc Mélenchon ?
Mais moi, je ne suis pas en train de chercher... Je ne m'intéresse pas, au moment où nous parlons, à toutes ces querelles intestines qui nous empêchent de penser et qui nous stérilisent.
Non, mais je parlais de convictions et d'idéologie, voyez-vous.
Sur le rapport,
Guillaume Pelletier dit...
Sur le rapport à l'Europe, je pense qu'on n'a pas la même façon d'appréhender les choses, par exemple, voilà, pour donner un exemple. Sur la façon d'exercer le pouvoir, la stratégie de conquête du pouvoir, il y a des différences aussi. Eh bien, il n'est pas interdit d'en parler. Avec personne. Mais, je le redis, nous sommes socialistes. Et pour moi, ça reste une idée radicalement neuve dans un monde qui se défait.
Et le candidat idéal pour incarner tout ce que vous venez de nous dire, de nous expliquer, de nous parler de votre audace, on va dire, réformatrice du Parti Socialiste, vous verriez quel portrait robot parce qu'il faut quand même penser, je disais tout à l'heure que vous aviez des idées, maintenant il faut trouver la bonne personne.
Eh bien, le portrait robot, c'est d'abord quelqu'un qui a chevillé au corps une certitude, c'est que un monde meilleur est possible, un monde plus juste est possible. Quelqu'un qui a la conviction que
c'est pas un peu cucul.
Non, parce que vous savez, la politique, elle est aussi faite de la somme de nos non-choix, de nos renoncements et de nos petites lâchetés. Voilà, et que il faut avoir du courage. Donc on a besoin d'un candidat ou d'une candidate qui soit courageuse, qui soit sûre des valeurs que l'on porte, qui sache pour qui il se bat, être du côté de ceux qui subissent l'histoire avant d'être du côté de ceux qui prétendent l'écrire. Des vulnérables, une république du quotidien qui fonctionne dans les services publics, dans la vie pratique et quotidienne. Voilà. Et puis une écologie qui est une question sociale imminente, une écologie qui est une écologie des inégalités, qui desserre la ceinture parce que c'est aussi le moyen de mieux vivre, de mieux se loger, de mieux se nourrir, de mieux se déplacer.
Mais ce candidat virtuel des socialistes, il existe déjà et il s'ignore ou il existe déjà et vous l'ignorez ?
Probablement qu'il y a un peu des deux. Voilà.
Ouais.
J'ai envie de dire, c'est grave, docteur, non ?
Pas du tout.
Ah bon ?
Pas du tout.
Et on est quand même à un an.
Oui, bon.
Un tout petit peu moins, désormais. Mais
Vous connaissez les candidats des autres partis, à part un ou deux ?
Il y en a qui sont déclarés, en tout cas.
Oui, deux. Ouais. Voilà, beaucoup ne le sont pas.
Alors, il y a un sujet sur lequel la gauche a un déficit de crédibilité, c'est la sécurité.
Ah bon ?
Oui.
Vous avez le sentiment que dans le dernier quinquennat, on a eu un déficit de crédibilité.
Aujourd'hui, quand vous interrogez les Français sur qui incarne la sécurité, ce n'est pas les socialistes qui arrivent en tête, vous le savez bien.
Ah ben, vous savez, on peut toujours trouver plus raide, mais, plus intransigeant.
Attendez, ne dites pas ça remonte loin, cette histoire avec Lionel Jospin, le sentiment d'insécurité. Enfin, vous savez bien
que le Parti Socialiste n'est pas
spontanément le parti auquel on pense quand on interroge les Français. Qui incarne un parti qui a la sécurité comme une priorité ?
Mais nous avons les sécurités comme priorité.
Oui.
La sécurité de l'emploi, la sécurité sociale, la sécurité face aux grandes mutations et la sécurité publique.
Oui.
Et la question, vous savez, c'est un sujet que je connais bien. Oui. J'étais dans le corps préfectoral. Mmh. Pendant 4 ans, j'ai animé de façon hebdomadaire des réunions de sécurité. Mmh. Je connais plutôt bien ces sujets et le travail remarquable que font les policiers et les gendarmes. Moi, je laisse à personne le soin de dire que nous aurions été, de quelque manière que ce soit, laxistes, dans le dernier quinquennat. Est-ce que vous savez, vous vous souvenez un peu ce qu'a été le dernier quinquennat sur le plan de la sécurité publique, et notamment sur le plan de la lutte contre le terrorisme, avec le Bataclan, avec
oui, bien ce que disent les policiers, par exemple,
bah, les policiers,
sur le laxisme de la justice, qui par moments dénonce aussi les lois Taubira.
Les policiers, ils se souviennent aussi que dans le dernier quinquennat, on a recréé 10 000 postes dans la police et la gendarmerie, là où la RGPP, la droite, vous dites qu'elle était plus, qu'elle est plus dure, avait supprimé 13 000
l'idée
postes.
Qui est dominante.
Vous
la réfutez.
Cette idée, je la réfute. Mmh. Et en tout cas, la ligne de la gauche, ce n'est pas d'être laxiste, mais c'est de ne pas renvoyer dos à dos la justice et la police, et de faire respecter la loi en garantissant nos principes fondamentaux. Voilà. Et quand j'entends Guillaume Pelletier, je le dis, il rêve d'un régime qui n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de la
République. Est-ce que plus prosaïquement, il ne rêve pas que, si la droite n'arrive pas à conquérir le pouvoir, Marine Le Pen puisse, et qu'il gouverne avec elle? C'est ça le plan?
Mais écoutez, ses rêves sont nos cauchemars. Bon, ben voilà, on n'a pas grand-chose de commun.
Et je ne sais pas, il nous reste un peu de temps, parce que le maître des horloges, c'est pas
Macron. Il nous reste deux minutes.
Vous avez une dernière question?
Allez-y, soyez, profitez.
Non, mais moi, il n'y en a pas une qui me vient comme ça, donc je voulais...
Sur la sortie de crise sanitaire, puisque une bonne partie des aides exceptionnelles qui étaient accordées aux entreprises depuis le début de cette crise s'arrêtent progressivement à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est le bon timing ou est-ce qu'il aurait fallu les prolonger un peu?
Bah, écoutez, je crois qu'il faut vraiment faire du sur-mesure. C'est difficile de sortir d'une période où on a injecté comme ça beaucoup d'argent dans l'économie pour la soutenir. Et le gouvernement a bien fait. Il y a des secteurs qui auront besoin d'être aidés longtemps. Il faudra être au rendez-vous. D'autres vont pouvoir redémarrer. Donc vraiment, ça va être en l'occurrence du sur-mesure. Il y aura peut-être aussi des réponses territoriales parce que tous les départements ou toutes les régions ne démarreront pas selon leur structure économique de la même manière. On sait qu'il y a des secteurs pour lesquels ce sera plus long. Je pense au secteur de l'aéronautique, notamment, qu'il faudra aider.
Est-ce que Emmanuel Macron va tirer les marrons du feu de cette fameuse puissance de l'État qu'il a mis en marche?
Écoutez, quand je regarde les perspectives budgétaires qui ont été envoyées à Bruxelles par Bruno Le Maire, je vois bien le retour à la normale et ce qu'était le macronisme avant la crise, c'est-à-dire le libéralisme.
Mais voilà, on est arrivé au terme de l'émission.
Merci. On redonne le titre de votre livre, L'Esprit de Résistance, et c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup,
merci
Boris Vallaud. Merci
à la semaine
Frédéric,
prochaine.
À la semaine prochaine. Merci à Agnès Le Cossec et à toute l'équipe technique.
Appelez-nous, exprimez-vous.